Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Le 13 février dernier, le premier appel au 112 est passé à 16h48. Il est question d'une personne renversée devant une porte de garage d'un immeuble de la Villa Gioiosa, la Ville Joyeuse, une station balnéaire située à une dizaine de kilomètres de Benidorm, dans la province d'Alicante, en Espagne. Sur place, la police découvre pourtant autre chose. Sur le sol gît le corps d'un homme, percé de 6 balles et sérieusement amoché par la voiture qu'il a percutée avant de prendre la fuite. Une voiture qui sera retrouvée quelques heures plus tard, en feu, à El Campello, une commune voisine. Selon les documents trouvés dans son portefeuille, la victime est un Ukrainien de 33 ans. À première vue, rien de très surprenant. Au dernier recensement municipal, on comptait plus de 1200 de ses compatriotes et près de 800 Russes, pour une population totale de 36 093 habitants. Repère à oligarques depuis les années 1990, le coin a vu ses immeubles, construits à la va-vite pour accueillir le tourisme de masse pendant la saison estivale, se remplir de réfugiés depuis le début de la guerre. Lia, une opposante russe installée à Alicante depuis 6 ans, explique qu'ils viennent particulièrement d'Odessa et de Mykolaïv, et que ce sont surtout des hommes qui arrivent, rejoints ensuite par leur famille. Ils veulent ainsi éviter de combattre, et surtout de mourir, rajoute-t-elle. C'est aussi le choix qu'avait fait, en vain, Maxime Kouzminov. La véritable identité de l'homme assassiné dans la Ville Joyeuse est révélée 5 jours après sa mort par des canaux d'information du Kremlin en Espagne. La victime est un Russe de 28 ans et pilote d'hélicoptère. Et déserteur. C'est sans doute ce qui a signé sa mort. Dans la foulée, Sergueï Narychkine, le directeur du service des renseignements extérieurs de Poutine, officialisera l'information à sa façon.
Ce traître criminel s'est converti en cadavre moral au moment même où il a planifié son terrible crime.
Diplômé de l'école supérieure d'aviation militaire de Syzran, au bord de la Volga, à 900 km à l'est de Moscou, Kouzminov était depuis 6 mois l'homme à abattre du régime russe. En août dernier, après des mois de négociations secrètes avec les services ukrainiens, le jeune pilote vole plusieurs heures à basse altitude le long de la frontière, échappant ainsi au radar, et pose son MI-8 sur une base militaire de la région de Kharkiv. Le renseignement ukrainien élimine alors les 2 autres occupants de l'hélicoptère et fait du déserteur et de son appareil de combat son plus grand trophée de guerre. Dans une vidéo de propagande diffusée début septembre, Kouzminov, qui a pris soin de mettre mère et fiancée à l'abri avant de déserter, livre face caméra les détails de l'opération. Il dit avoir obtenu un passeport ukrainien et un chèque de 500 000 euros. Avec son visage poupon, il évoque son grand-père, un ancien soldat soviétique qui avait combattu les troupes d'Hitler, et déroule le discours de son nouveau camp.
Il n'y a pas de fasciste ou de nazi ici. Ce qui se passe, c'est juste un génocide du peuple ukrainien comme du peuple russe.
Puis, il disparaît dans la nature, jusqu'à ce fatal 13 février.
Découverte macabre dans ce parking près de la ville d'Alicante.
Depuis des années, finalement, des opposants au régime sont éliminés par le Kremlin.
Une longue liste d'opposants mystérieusement tués, notamment depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus d'une quarantaine d'opposants russes connus ou d'oligarques critiques du régime de Vladimir Poutine ont subitement trouvé la mort. Une épidémie de suicides suspects et de chutes de balcons qui fait peser une menace permanente sur tous les autres dissidents et qui pose la question, est-ce le signe d'un pouvoir en bout de course ou celui d'un régime plus puissant et vengeur que jamais? Regarde les Russes tomber, l'article dont vous venez d'entendre les premières lignes lues par Mohamed Ben Safi est signé par Léo Ruiz et Guillaume Venetite, journaliste à Society.
Olon, la piste audio des grands récits de Society.
Bonjour, ou bonsoir d'ailleurs, vous avez le droit de nous écouter à l'heure que vous voulez. Bienvenue dans ce podcast qui vous fait entrer dans les coulisses du magazine Society. Aujourd'hui, on accueille un duo de journalistes. Bonjour Léo Ruiz.
Bonjour Noémie.
Et bonjour Guillaume Venetite.
Bonjour Noémie.
Pour ce numéro de Society, Guillaume et Léo, vous vous êtes donc intéressés à cette vague de décès qui touche les opposants de Vladimir Poutine et qui s'est accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette vague, Guillaume.
Alors, depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, depuis l'invasion, on a noté, en tout cas, une étrange épidémie, comme on peut dire, de personnes fortunées, d'oligarques ou d'opposants russes, on va dire ça comme ça, qui ont perdu la vie. Et il y avait parfois un schéma assez classique, avec des suicides, des meurtres aussi, évidemment. Et donc on s'est demandé, est-ce que ça avait un lien avec la guerre en Ukraine, avec Vladimir Poutine, avec les services secrets russes. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de démêler, puisqu'on n'est pas les seuls, en tout cas, à s'interroger sur cette épidémie que le magazine The Atlantic a appelé justement le syndrome des Russes qui tombent du balcon, c'est ça ? Ou je sais plus.
Alors, il y avait le syndrome de la mort subite russe.
Voilà, c'est ça. C'est le magazine The Atlantic qui a parlé du syndrome de la mort subite russe. Voilà. Donc, on a essayé de creuser cet aspect.
C'est quoi qui rend cette liste de décès étonnante ? Je crois que c'est ce mot-là que tu as utilisé. En tout cas, suspecte, voire inquiétante même.
Ce sont des individus qui ont eu un lien, en tout cas, avec des sociétés gazières. En tout cas, on a pas mal de personnes qui avaient un lien avec Gazprom, notamment, ou avec d'autres compagnies gazières. Ce qui fait que, justement, le journal Novaya Gazeta, qui est un journal indépendant russe, justement, a émis cette hypothèse aussi, qu'il pouvait y avoir des règlements de comptes liés, justement, à de l'argent sale, qui a pu être fait dans les années 90 ou 2000 via la société Gazprom. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des notables. On parle dans le papier justement d'un député russe, donc dans l'oblast de Vladimir, donc à 180 km de Moscou. Voilà, donc on a des personnes qui sont quand même assez importantes. Voilà, c'est pas juste le russe lambda en vacances à Goa ou sur la côte méditerranéenne. Voilà, c'est quand même des gens qui ont un peu d'importance, un peu de pouvoir économique ou diplomatique.
Mais en fait, qui serait derrière ces disparitions douteuses ?
C'est le mystère un peu, parce qu'on parle beaucoup de la main invisible du Kremlin. Dans ce cas-là, ce qu'on nous a expliqué, nous, avec toutes les sources justement de Russes, de posants russes qui vivent en Espagne, c'est que, en fait, c'est du coup des agents dormants russes qui sont en Espagne comme partout ailleurs et qui sont en fait activés parce que là, ils ont dû détecter qu'il était là-bas. Ils sont activés et après, c'est par un système de menaces principalement où ils embauchent des gens qui peuvent être des mafias locales, des compatriotes qui sont sur place pour faire le sale travail et pour qu'on ne sache jamais en fait qui est vraiment l'origine de ça. Mais selon ceux qui sont habitués à traiter ce genre de dossier, c'est clairement cette fameuse main invisible, mais c'est clairement des agents dormants qui s'activent quand il y a besoin.
Vous parlez de plusieurs techniques dans l'article. Donc vous avez évoqué les chutes de balcon, les suicides, j'imagine, un peu déguisés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois qu'il y a des menaces à la famille aussi.
Oui, alors en fait, justement, le cas de Maxim Kouzminov, c'est un peu un cas extrême. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un déserteur très symbolique qui a fait beaucoup de bruit. Donc là, ce que nous ont expliqué en tout cas nos sources et même aussi des spécialistes un peu de l'histoire du FSB et du KGB, c'est que là, il n'y avait plus d'autre choix en fait que de l'éliminer. Parce que la trahison était trop forte, trop haute, trop symbolique avant cela. Sinon, généralement, donc, évidemment, il y a des menaces sur la famille, ou en tout cas, il y a une pression pour faire revenir la brebis galeuse dans le bon camp. Donc ça, c'est ce que les services secrets soviétiques à l'époque faisaient. C'est-à-dire qu'en gros, si vous aviez justement un dissident soviétique qui partait aux États-Unis, en France ou ailleurs, en tout cas à l'Ouest, s'il avait de la famille encore en Union soviétique, généralement, cette famille avait une visite du KGB qui disait écoutez, écrivez une lettre à votre compagnon, à votre père, et dites-lui qu'il faut revenir. Et après, il parvenait, des fois, ça jouait sur la corde sensible, il revenait. Sinon, ensuite, il y a la possibilité de retourner la personne, même si elle est partie. Par exemple, si vous aviez quelqu'un aux États-Unis, il fallait le retourner. Et donc, c'est arrivé souvent, justement, que certains soient retournés et soient employés, justement, à la BBC ou ailleurs. Et finalement, soit des agents en double et qui seraient revenus finalement du bon côté. Et après, il y a plusieurs techniques après ça. Donc, c'est vraiment gradué en fait. On a un chercheur qui nous a fait un tableau en 5 points, justement pour dire en fonction de la menace ou du danger que vous représentez, si vous avez des informations sensibles ou si vous êtes prêt à trahir, à donner des secrets aux ennemis, là, la riposte est forcément graduée.
En fait, l'assassinat est toujours la dernière option. C'est pas ce qu'on nous expliquait. C'est pas facile à faire déjà. Et c'est jamais leur priorité. Donc une fois qu'ils ont essayé de retourner ou de rapatrier, ils passent. Si c'est trop dangereux, ils passent à l'action pour l'assassinat. Et pour ça, effectivement, au long de l'histoire, ils ont utilisé plusieurs techniques. Ça peut être le tir assassiné dans la rue, comme ça a été le cas de Maxime Kouzminov. Mais ça peut être aussi beaucoup des méthodes d'empoisonnement. Comme avec Navalny et comme plein d'autres opposants ces 10-15 dernières années.
Il y a eu Sergei Skripal qui avait été empoisonné en Angleterre au Novichok, donc qui est un agent neurotoxique. On a vu le polonium avec Alexandre Litvinenko, qui est un ancien agent du FSB, qui lui en est décédé. Hein. Il est décédé 3 semaines après justement avoir ingéré du polonium. Et il y avait la technique évidemment plus ancestrale du parapluie bulgare, qui était justement d'injecter un poison au bout du parapluie et on déclenchait finalement cette piqûre via le manche du parapluie.
Il y a eu aussi la dioxine, ou le dioxine, je ne sais pas, qui a été utilisée contre Viktor Yushchenko, l'ancien candidat à la présidentielle en Ukraine.
Oui, parce que ce n'est pas un phénomène qui est récent. Est-ce que ça s'est accentué depuis le début de la guerre en Ukraine?
Alors, en tout cas, on a noté cette liste. Après, évidemment, si c'est les services russes, ils essayent évidemment de dissimuler leurs mains. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne revendiquent jamais. C'est-à-dire que même là, dans le cas de Kouzminov, il est quand même le déserteur ultime où on peut être quasiment certain qu'il y a la main du FSB. Même l'Espagne, donc les autorités espagnoles, ont dit que c'est sûrement la main des Russes, mais il faut quand même faire une enquête. Parce que, en fait, justement, diplomatiquement, ça peut être très compliqué de dire ça. Je crois que pour Skripal, justement, le Royaume-Uni avait dit c'est un empoisonnement, c'est sûr qu'il y a la main du FSB, et donc ça avait causé beaucoup de sanctions, et diplomatiquement, c'était très, très complexe derrière.
Il n'y a jamais eu de preuves de revendication ou d'aveu?
Alors, dans le cas de Maxime Kouzminov, il y a une forme d'aveu, puisque les Russes se félicitent quand même de sa mort. D'ailleurs, même au début, ce qu'on nous a dit en Espagne, c'est que quand on pense au début que c'est un Ukrainien, quand finalement on révèle sa véritable identité, en fait c'est les Russes qui le font eux-mêmes parce qu'ils voyaient que le temps passait, que c'était pas officialisé et eux ils avaient besoin de dire vous voyez le traître, on l'a éliminé. C'est donc ce qu'ils font et effectivement dès que c'est officiel, eux ils font un communiqué de presse qui dit dans l'agence russe habituelle, qui dit on a eu ce traître, voilà ce qui arrive au traître. Ils vont pas plus loin, mais ils font passer quand même ce message. Donc, en quelque sorte, sur ce cas précis, ils ont ils ont clairement reconnu que c'était eux. Mais après, dans tous les autres cas, non, on sait jamais. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça marche. Parce qu'en fait, du coup, dès qu'il y a un mort russe depuis la guerre, on se demande s'il était lié à Poutine, si c'était un opposant, si c'est ça qui a conduit à sa mort. Et c'est cette espèce de peur et de psychose qui s'installe chez tous les opposants. Et ça, tous ceux qu'on a eus, n'importe quelle échelle d'opposition, même des Espagnols qu'on a eus qui sont de simples citoyens russes, enfin, qui n'ont pas d'importance ni politique ni financière, eux se sentent aussi en insécurité. Et une Espagnole qu'on a eue, qui est de la région d'Alicante aussi, nous a dit qu'elle était persuadée d'avoir été empoisonnée elle aussi, qu'ils avaient mis du poison sur la poussette de sa fille. Elle en était persuadée. On ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, cet effet de peur fonctionne parfaitement.
Vous avez interviewé qui pour apporter un éclairage à votre article?
Pour Kouzminov, on a d'abord fouillé pas mal en Espagne, donc du côté d'Alicante. Et ensuite, on a eu aussi des experts, un peu, donc des chercheurs. Donc notamment un ancien cadre, on va dire, des services américains, qui est aujourd'hui professeur. On a justement Pareil, un autre spécialiste des services secrets. On a eu un millionnaire britannique qui a bossé longtemps en Russie, qui était l'une des premières fortunes à investir en Russie pendant très longtemps, et qui est devenu un peu un ennemi de Vladimir Poutine, qui s'exprime très souvent contre lui, et qui lui estime justement pareil qu'il est victime de menaces, qu'il a dû changer toute sa vie, et qui lui estime clairement que tous les cas qu'on a pu citer ou qu'on a pu lire, ce sont pas des suicides, ce sont des assassinats. Voilà, lui il est assez tranché. Voilà, après il y a certainement aussi justement, comme disait Léo, il y a la côté psychose, donc forcément on va, dès qu'il y a un mort un peu inexpliqué, on va se dire que c'est forcément la main du FSB, ou en tout cas on va suspecter le FSB et la Russie, alors qu'en fait c'est des fois bah, il y a juste des simples entre guillemets suicides et des morts accidentelles, ça peut arriver aussi.
Ce qui a changé sur la partie en tout cas sur l'Espagne, on l'a constaté, c'est qu'en fait les opposants lambda, on va dire, qui sont à l'étranger, avant, ils n'affichaient pas vraiment cette opposition, ils la gardaient pour eux, quoi. Et en fait, à partir de l'empoisonnement, de Navalny en 2021, il y a eu, dans plein de villes du monde, et notamment à Barcelone, dans le cas espagnol, des manifestations spontanées d'opposants auxquelles les Russes d'Espagne ont participé et où ils se sont rencontrés. Et à partir de là, ils se sont organisés, ils ont créé tout un réseau d'opposants dans les différentes villes du pays. Et à partir de là, surtout, ils ont commencé à communiquer officiellement, enfin, à s'exprimer. Il y a donc, on a eu les quelques référents de ces groupes qui osent, eux, s'afficher. Mais jusqu'à, ils nous disaient que jusqu'à 2021, du coup, c'était impossible pour eux de sortir, de parler, de montrer son visage. Et là, paradoxalement, en fait, il y a donc cette peur supplémentaire. Et en même temps, ils ne sont peut-être jamais autant exprimés qu'auparavant.
Et juste un point, tu demandais, Noémie, si... il y a eu des revendications sur Navalny. L'empoisonnement de Navalny, il n'y a jamais eu de revendications claires. Par contre, il y a eu une enquête du site Bellingcat qui avait bossé avec les équipes de Navalny, où ils avaient réussi à piéger justement un agent du FSB qui faisait partie de l'équipe qui avait appliqué le Novichok dans la chambre d'hôtel et sur le slip de Navalny. Voilà.
C'est ce qu'on peut lire dans l'autre article du dossier qui est dans ce numéro, écrit par Lucas et Juliette, qui sont eux allés en Allemagne raconter les derniers jours de liberté de Navalny, et qui racontent comment il les a démasqués.
Même si les gens parlent plus qu'avant, est-ce que ça a été compliqué de les faire parler pour cet article-là, notamment dans un contexte d'élection présidentielle russe?
Ce qui est difficile sur ces cas, en tout cas de personnes décédées un peu subitement, c'est justement que les gens avancent à visage découvert. C'est par exemple les proches ou les familles de ces personnes-là vont avoir finalement un peu de mal, déjà parce qu'il y a un deuil qu'il faut surmonter, et parce qu'il y a évidemment une sorte de peur, une psychose comme on disait, qui est un peu difficile justement à surmonter. Et donc c'est assez difficile finalement d'avoir accès à de la première main, où il y a des gens qui ne veulent plus parler, qui vont parler une fois, qui ne veulent plus s'exprimer. Donc c'est pas facile. Ouais, il faut... Alors nous, on a l'avantage sur ce sujet, c'est qu'on bosse quand même depuis plusieurs semaines, on va dire, sur ce thème-là, sur diverses histoires liées à ce thème-là. Donc on avait déjà quelques contacts, finalement, qui pouvaient prendre un peu de recul, ou comme le millionnaire britannique qui pouvait nous apporter justement quelque chose de l'intérieur. Et on a des opposants qui sortent un peu plus du bois, on va dire maintenant.
Mais c'est vrai que pour... Enfin, du coup, effectivement, on travaille depuis un moment sur d'autres cas, et la difficulté, c'est toujours celle-là, c'est convaincre une famille qui est quand même en deuil, de, quand on parle des proches en tout cas, de bien vouloir en parler, de bien vouloir raconter l'histoire de leur mari, de leur frère. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire.
Et est-ce qu'au moment d'écrire, on prend quelques pincettes?
Nous, c'est plus sur, sur la responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux pas accuser le FSB nommément. Parce qu'on n'est pas sûr, on reste journaliste, donc il faut qu'on travaille sur des faits. Voilà, maintenant il y a une sorte de faisceau d'indices où pas mal d'opposants justement nous montrent finalement ces indices qui pointent finalement vers la Russie et le FSB, donc on raconte ça aussi. Voilà, c'est plus que ce qu'on va raconter. Donc la précaution, finalement, nous on la prend en passant justement via ces opposants qui nous racontent et qui nous donnent leur avis, et via des chercheurs qui mettent un peu de recul et qui viennent nuancer aussi, justement, parce qu'on a un ou deux chercheurs qui viennent nous dire bon, c'est pas forcément que la main du FSB, il y a forcément des accidents, des réels suicides, il y a la situation économique aussi liée aux sanctions qui ont été prises par les pays de l'Union européenne sur plusieurs oligarques ou businessmen russes qui peuvent jouer ces sanctions, parce que voilà, on peut être, si on n'a plus d'avoir, plus rien, bah, pour certains, la dernière solution, c'est le suicide. La précaution, pour moi, elle passe comme ça. Après, nous, on s'interdit jamais rien à part de respecter les faits, quoi.
Oui, disons qu'il n'y a pas, je ne sais pas si c'est ça aussi que tu sous-entendais, mais il n'y a pas une peur d'écrire sur cette question-là. Mais par contre, oui, c'est juste l'enjeu est juste journalistique, quoi. On est obligé de respecter tout ça.
Et nous, on n'est pas exposés, on est beaucoup moins exposés que des citoyens russes. Tout simplement parce qu'on est français, on bosse ici. On n'est pas gênant. Léo Ruiz et Guillaume Vénécité ne sont pas gênants pour Vladimir Poutine.
Pas encore.
Pour l'instant.
Pas encore, ouais, c'est vrai.
Pour un côté plus technico-pratique, vous travaillez souvent ensemble, vous travaillez souvent en duo. Comment vous vous organisez entre vous pour travailler? Est-ce que c'est toujours de la même façon?
C'est pas toujours de la même façon, mais on a quand même des réflexes parce que ça commence à faire longtemps. Donc tout le travail on le fait ensemble en général, enfin on fait un plan ensemble, et pour la question de l'écriture on a, c'est là où on a des vieux réflexes je pense, où souvent je fais l'intro à la première partie et souvent Guillaume fait toute la deuxième partie. Dans ce cas là c'est vrai que c'est plus Guillaume qui a pris un peu le lead de ce papier. Moi j'ai un peu accompagné sur toute la partie espagnole notamment, donc toute celle du cas Maxime Kouzminov, et le reste c'est quand même beaucoup Guillaume qui a pris tout ça en main.
Il y a une partie en Inde, et moi j'étais en reportage en Inde juste après les décès justement de ces deux personnes qui sont mentionnées dans le papier. Et je suis d'origine indienne, donc forcément j'ai un peu plus creusé ce côté-là. Et sur les réflexes de travail, oui, bah, par exemple Léo parle mieux espagnol que moi, et je parle un peu mieux anglais que lui. Donc généralement sur les interviews on se répartit un peu comme ça.
Ça s'équilibre.
Ça s'équilibre, voilà. Mais après c'est vrai que les grosses interviews on les fait ensemble, ouais. Et après... comme l'a dit Léo, le travail de plan, et puis après, ensemble. Et après, l'écriture chacun de son côté, et puis on relit une fois, deux fois, on s'envoie trois versions, généralement, et après, on envoie.
Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous allez continuer de travailler?
Oui, parce que comme on disait, en fait, on le travaillait déjà en amont, un peu différemment, mais... Et du coup, on va... Ça, en fait, ça a presque été une parenthèse dans ce travail qu'on mène depuis des mois, on va dire, pour essayer d'en approcher certains. Et ben maintenant, c'est continuer ce travail qu'on avait commencé. Et peut-être que le fait, nous on l'a aussi perçu comme ça, peut-être que le fait de faire tout ce dossier et de pouvoir le présenter à des gens qu'on essaie de contacter, qui pour l'instant refusent de s'exprimer, mais c'est normal, il faut prendre le temps. Peut-être que ça peut aussi les aider à être convaincus du sérieux du travail qu'on est en train de faire sur toutes ces questions-là. Et je sais pas, on va bien voir, mais ça peut être un moyen pour nous de nous aider à avancer dans cette deuxième quête qu'on mène depuis un petit moment déjà.
Et le conflit n'est pas terminé, donc il risque d'y avoir évidemment des morts suspectes, ou en tout cas des assassinats, ou en tout cas des décès un peu étranges.
C'est ce que fait, je pense, Society depuis le début du conflit, c'est raconter régulièrement en fait, des histoires autour de ce conflit. En Ukraine, il y en a eu beaucoup. En Russie, bon, c'est plus délicat, mais il y en a eu quelques-unes aussi. On est allé à Biarritz raconter l'histoire des Russes de Biarritz. Et effectivement, malheureusement, je pense qu'on va en avoir d'autres à raconter.
Merci Guillaume, merci Léo d'être venu dans ce studio. Pour vous qui nous écoutez, sachez que vous pouvez lire l'article « Regarde les Russes tomber » ainsi que plein d'autres articles très intéressants comme celui sur les derniers jours de liberté d'Alexei Navalny qu'on a évoqué tout à l'heure dans le numéro 226 de Society, en vente en ce moment chez tous les marchands de journaux jusqu'au 27 mars et en numérique sur l'appli Sopress ou sur abonnement.sopress.net. Salut à tous, on se revoit dans 15 jours.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.